Et vous retrouvez aussi en direct Pascal Paradou, bonjour.
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 Balthazar, la fête commence.
Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Pascal Paradou.
Elle aime le cinéma, il fait du cinéma, elle vit à Paris, il est en Afrique, elle est née en Amérique, mais écrit en français. Il est né en France, mais il se sent du Mali. Ce pourrait être un scénario improbable avec la question cruciale, vont-ils se rencontrer? Eh bien non, il n'y a pas de suspense, c'est juste une émission de radio qui va faire se croiser l'écrivain Leslie Kaplan et le cinéaste Daouda Koulibaly. Celui-ci signe un moyen-métrage présenté au FESPACO et il sera notre premier invité, puis viendra Leslie Kaplan dans la seconde partie de l'émission. Pour son récit autobiographique, Mon Amérique commence en Pologne. Récit d'une époque et d'une double, triple culture juive, américaine et française. Nous saluerons aussi, comme il se doit, le 50e anniversaire de la disparition de Boris Vian. Mais auparavant, nostalgie, nostalgie, le téléphone sonne à...
Rio de Janeiro.
Bonjour Annie Gasnier. Rio qui en a fini avec le carnaval, mais pas tout à fait avec le souvenir de la chanteuse Carmen Miranda.
Oui, le Brésil et surtout Rio, Rio ancienne capitale et la ville où a vécu Carmen Miranda, commémore le centenaire de sa naissance. Elle était née le 9 février 1909 et donc il y a eu des manifestations, surtout toute la semaine précédant le carnaval, toute cette semaine où le gouverneur ou des responsables de la ville ont commémoré et rappelé la carrière incroyable de cette chanteuse et actrice brésilienne. Et rappeler un petit peu tous ces faits et tout ce qui, finalement, a fait sa réputation au niveau international. Parce que c'était la fille d'un barbier et d'une couturière qui venait du Portugal. Elle est née au Portugal, mais elle arrivait, elle avait quelques mois au Brésil. Et puis elle est devenue une chanteuse extrêmement connue dans les années 30. Et puis ensuite, en 1939, elle avait été repérée dans le casino, il y avait à l'époque à Rio qui s'appelait le casino d'Urca, et elle avait commencé une carrière internationale aux États-Unis. Elle a aussi même chanté à Londres et tenu l'affiche dans une comédie musicale plusieurs semaines. Et donc elle a eu une rapide carrière fulgurante, mais elle est morte à l'âge de 46 ans à Beverly Hills.
Alors au Brésil, Annie, est-ce qu'elle est considérée comme une fille du pays ou une star d'Hollywood?
Alors ça, c'est un peu toute la polémique qui a entouré la carrière de Carmen Miranda, c'est-à-dire qu'elle avait quand même lancé et elle était le symbole d'une certaine culture brésilienne, puisqu'elle était devenue un peu le symbole de ce qu'elle n'était pas d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un de Bahia, de Salvador de Bahia. Elle s'habillait avec des vêtements, ses longues robes un peu amples, un turban sur la tête et puis des paniers de fruits, des paniers de fleurs, des paniers de poissons et tout ce qu'on a pu voir dans les films. Et une certaine intelligentsia, ici même des gens du monde culturel, lui ont reproché beaucoup cette espèce d'image américanisée de la chanteuse brésilienne, à tel point qu'elle était revenue une fois, que personne ne venait la voir, qu'elle n'était même plus reçue comme une star au Brésil. Elle avait répondu en chanson, c'était sa spécialité, et elle avait chanté « On dit que je suis revenue américanisée ». Il faut quand même dire que le jour où elle est rentrée pour la dernière fois, c'était donc son corps et son cercueil, il y a eu 1 million de gens qui ont suivi son cercueil ici dans les rues de Rio de Janeiro.
En attendant, il y a un musée qui est consacré à Carmen Miranda à Rio.
Oui, il y a un petit musée moderne sur l'Atero do Flamengo, juste en face du Pain de Sucre et juste en face justement de ce casino qui depuis n'existe plus et a été fermé. C'était ce casino aussi où s'était produit Henri Salvador à la même époque. Alors vous entrez dans le musée, elle n'était pas trop grande, mais vous l'avez là en grandeur nature avec une de ses fameuses robes. Et puis il y a ses vêtements, il y a aussi la machine à coudre avec laquelle elle a commencé parce qu'au début elle travaillait avec sa mère. Elle chantait dans l'atelier de couturière, mais elle n'était que couturière. Il y a aussi ses malles de voyage énormes, puisque quand elle faisait toutes ses tournées en Amérique latine, il y a les malles. Et puis il y a de la musique, vous pouvez vous faire projeter des films, des chansons, et on retrace sa vie, et puis tous ces accessoires de mode qu'elle avait, qui seraient totalement d'actualité d'ailleurs, et pas seulement dans un carnaval à Rio, et qu'on voit donc dans ce petit musée.
Merci, Annie Gasnier.
Le matin, on se stimule et le soir, on vous stupéfie. C'est comme ça.
Culture vive, Pascal Paradou.
La chanson du jour, c'est le choix d'Alain Pilot. Ce sera Michel Jonas, qui est actuellement au Casino de Paris, à Paris. Mais auparavant, direction Ouaga, où RFI a planté son studio pour suivre la 21e édition du FESPACO, le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télé. Et dans la sélection, on retrouve le cinéaste Daouda Koulibaly avec son film « Il était une fois l'indépendance ». Bonjour Daouda Koulibaly.
Bonjour.
Vous êtes en compagnie de Sophie Torlotin, donc en duplex de Ouagadougou. Donc je vais la laisser vous interroger. Mais que représente pour vous cette participation au FESPACO ?
J'ai l'impression d'être un privilégié. Ça fait deux jours que je suis là, que je rencontre des gens charmants, dont Sophie. je suis très content d'être là. Je prends beaucoup de plaisir. La cérémonie d'ouverture, les échanges que j'ai pu avoir avec les autres réalisateurs, les comédiens, les organisateurs, je suis aux anges.
Et vous pensez que ça peut donner un coup de pouce à votre film ? Oui, forcément. Enfin, c'est déjà une forme de reconnaissance.
Oui, voilà, moi je l'ai pris comme ça. J'étais déjà très heureux quand je vois les films qui sont en compétition. Je me dis que c'est presque un miracle qu'on soit parmi eux. Après, si grâce au FESPACO on peut exister encore ailleurs, ce serait un beau cadeau. Mais le cadeau est déjà arrivé.
Alors, il faut dire que le jour de l'indépendance, votre film Daouda Koulibaly est un premier film, que c'est un moyen métrage. Vous l'avez vu, Sophie, est-ce qu'on peut dire, parce que le titre suppose cela, que c'est un film historique ?
Oui, oui et non. Enfin, on va en parler avec Daouda Koulibaly. C'est-à-dire que c'est un film qui superpose l'histoire d'un couple africain avec l'histoire, avec un grand H, hein, du continent africain. Dès les premières images, d'ailleurs, le ton est donné. Hein, c'est un film aussi entièrement en noir et blanc. On voit une fête de mariage avec, en bande-son, les déclarations d'indépendance du Niger, du Cameroun, du Sénégal, etc. C'est là pendant à peu près 5 minutes. Puis, on passe à l'histoire du couple après son mariage. Une voix off déclarant au début, hein, l'indépendance était une promesse, alors qu'on voit les gens danser. Alors, Daouda Koulibaly, pourquoi avoir choisi de mêler ainsi l'histoire personnelle, intime d'un homme et d'une femme avec la grande histoire africaine ?
Je voulais me replonger dans ce qui définit peut-être le mieux les histoires africaines, c'est le conte. Et donc, je me suis inspiré d'un conte d'Amadou Mpateba, qui est Les Trois Choix du Marabout, que j'ai librement adapté. J'ai voulu respecter le récit du conte, ça je ne l'ai pas inventé. En revanche, j'ai inséré les récits politiques, et tous les récits politiques qui jalonnent le récit nous font traverser l'histoire des 50 dernières années.
Camerounais, Camerounais, le Cameroun est libre et indépendant. Nous serons jugés sur nos actes.
Nous savons que l'indépendance politique ne résout pas automatiquement tous nos problèmes, mais elle permet de les poser nous-mêmes.
Vous parlez d'un conte, effectivement, c'est une fable, hein, puisqu'après on passe à l'histoire de ce couple qui va plus se désunir avant de revenir ensemble. Il y a Dieu qui va apparaître au mari qui est un ascète et très vertueux, et Dieu va lui accorder 3 vœux. En quoi cette histoire spécifique, pensez-vous, peut-être une parabole justement des 50 dernières années de l'histoire africaine ?
On termine le film par une morale. Je pense effectivement que faire le bilan des 50 dernières années sans rien apporter de plus, ça aurait été dommage. Donner une morale après avoir vu le conte sans faire le lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, ça aurait été dommage aussi. Donc l'idée, c'était de mélanger les deux.
Mais justement, la morale, quelle est-elle, la morale de l'histoire ?
La dernière phrase du film, c'est « Si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la braise ». Donc,
C'est-à-dire qu'il faut, pour arriver à plus de progrès, il faut supporter les défauts, les soubresauts de l'histoire ?
C'est comme ça que le progrès se définit. Il faut connaître des échecs, des déceptions, pour pouvoir un jour arriver à être satisfait de ce qu'on veut construire. Les 50 années qui viennent de s'écouler, on peut les voir de différentes manières. On peut voir la frustration, la déception de ceux qui ont pu connaître ces moments-là. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, c'était beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir.
À l'époque des indépendances.
Oui. Et puis, on peut voir aussi que c'est 50 ans d'apprentissage, que c'est 50 ans de construction, et que même si aujourd'hui tout n'est pas parfait, il y a quand même des éléments positifs qu'il faudrait prendre en compte.
Donc, vous êtes plutôt optimiste, Daouda Koulibaly, sur l'avenir et le présent de l'Afrique ?
Bien sûr, pourquoi on ne le serait pas? On entend beaucoup de pessimistes par-ci par-là, mais quand je me balade dans les rues de Ouaga ou de Bamako, je vois des gens avec le sourire, je vois beaucoup de joie, je vois, bien sûr, si on veut se contenter de regarder la misère et la poussière sur nos baskets, on peut le faire aussi, mais on peut très bien déplacer notre regard sur les choses positives et retirer beaucoup de raisons de croire en un avenir meilleur.
Dans quelles conditions et avec quels producteurs, quelles aides vous avez réalisé ce film Daouda Koulibaly?
Disons, le principal ingrédient de ce film, c'est le cœur des gens qui ont participé à ce projet. Pour ce qui est des conditions financières, elles consistent en mes économies.
Que vos économies?
Mes économies, oui. Dit comme ça, ça occulterait le fait que on est peut-être une centaine à avoir participé à ce petit film. Et c'est une richesse.
Donc c'est forcément vrai. Des gens que vous n'avez pas pu payer, peut-être.
Non, tout juste dédommagés pour les transports, pour ils ont eu une boisson à la fin de la séquence, mais c'est tout. Donc c'est on n'a pas fait ce film avec de l'argent, on l'a fait avec le cœur des gens.
Justement, Daouda Koulibaly, vous disiez que vous aviez rencontré ici déjà au FESPACO d'autres réalisateurs comme vous. Vous avez le sentiment que les autres jeunes réalisateurs font un peu comme vous à l'énergie, en travaillant en numérique avec une petite caméra?
Oui, je pense que c'est le numérique qui permet ça. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une caméra, les cassettes sont bon marché, on peut très bien se débrouiller et avoir la possibilité de tourner un film sans se ruiner.
Mais quelle idée de dépenser toutes vos économies pour un film? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire du cinéma?
Avec ce que m'a coûté le film, j'avais le choix entre m'acheter une voiture d'occasion et faire le tour de mes amis avec, ou bien continuer à prendre le bus et faire un film. J'ai choisi de faire un film.
Alors vous êtes malien, vous avez 32 ans, mais un malien de France, puisque vous avez fait vos études dans le sud de la France, mais pas des études de cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir au 7e art? C'est de voir aussi des films africains. Qu'est-ce qui vous a vraiment donné cette flamme?
Ma passion pour le cinéma est venue relativement jeune, je pense. C'était pas ma voie, je me suis engagé dans une voie tout autre, des études d'économie, rien à voir avec le cinéma. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours regardé d'un œil particulier. À la fin de mes études, je me suis orienté vers le cinéma, j'ai commencé à travailler sur les plateaux. Et très vite, j'ai eu envie de m'exprimer.
Vous trouvez que l'Afrique manque d'images, manque de cinéma, manque de fiction?
Je trouve que oui, effectivement, quand on est en Europe, on est le cinéma africain est pas très exposé. Mais mon expérience personnelle me fait dire que il faut se lancer et que aujourd'hui on a des moyens pour contourner les difficultés à être vu en salle. On a Internet, on ne peut pas se contenter de ça, mais c'est déjà une solution pour être vu. L'essentiel étant que le message qu'on essaye de faire passer passe.
Donc il faut investir Internet. Catherine Ruel et Sophie, qui est à votre côté, Daouda Koulibaly, disent que la relève du cinéma africain est plutôt à chercher du côté du documentaire et des auteurs de cours. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de la relève?
Je vais tout faire pour que dans ses prochaines interventions, elle parle de moi, oui.
Mais je parle déjà pas de ça.
Je mais parle oui, de j'espère que je fais partie. Ah oui, je vais être là, en tout cas, ça me donne envie de continuer. Il y a que des choses positives qui m'arrivent ici et j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de continuer à faire passer des messages. C'est ça qui m'intéresse.
Sophie, vous pensez que Daouda Koulibaly fait partie de la relève?
Définitivement, de toute façon, en tout cas déjà à l'applaudimètre, dès la première projection de son film, il était une fois à l'Indépendance, et en tout cas le sentiment des festivaliers ici.
Formidable, merci beaucoup à tous les deux, merci Sophie, merci Daouda Koulibaly, en espérant voir votre film rapidement à Paris et éventuellement ailleurs. Merci beaucoup.
Eh bien, je suis aujourd'hui dans une des discothèques de la rue de Rome, tout près de la gare Saint-Lazare, et j'ai à côté de moi Boris Vian, qui va m'expliquer ce que c'est que cette nouvelle danse qu'on appelle poireau pomme de terre.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent accusé d'écrire des chansons trop intellectuelles, et j'ai voulu prouver avec le poireau et la pomme de terre que je n'étais pas spécialisé dans la chanson intellectuelle.
Alors vous pouvez danser maintenant, essayez de danser.
Il Il y a 50 ans, disparaissait Boris Vian, poète, romancier, chansonnier, trompettiste de jazz et âme de Saint-Germain-des-Prés. Pour lui rendre hommage, Jean-Louis Jacopin a créé un spectacle au théâtre Ménilmontant intitulé « Juste le temps de vivre ». Reportage, Caroline Langlois.
Les habitués du tabou auront sûrement reconnu l'indicatif de Boris Vian. Vous allez maintenant assister en direct à l'enregistrement radiophonique de l'émission « Juste le temps de vivre », chansons et textes.
C'est François Bourjac qui a fait le montage. Donc il m'a donné un montage avec des textes, des chansons de Boris Vian et une idée comme ça de son Vian, j'ai envie de dire comme ça. Et puis en même temps, il m'a dit, bon bah, je te le donne et tu en fais la mise en scène. Et au fur et à mesure des répétitions sont arrivées des choses. Parce que je me suis replongé dans l'époque de Vian. Alors je suis allé rechercher dans les archives ce qui se faisait à l'époque, dans quelle voiture on roulait, quelle était la lessive qu'on avait à l'époque, etc.
La vie vaut-elle d'être vécue ? La vie est-elle tellement vivante ? Je pose ces deux questions.
Vous savez, aujourd'hui on a un rideau rouge dans le théâtre où on est, et devant ce rideau rouge, dans le temps, quand c'était un cinéma, il y avait des publicités qui étaient peintes. J'ai eu l'idée comme ça d'émailler, parce que je trouve que c'est une actualité folle, puisque la publicité aujourd'hui qui est supprimée à la télévision publique, et je me suis dit, il faut qu'on fasse entendre ça, c'est-à-dire que ce spectacle-là, c'est comme s'il était financé par certaines publicités, et les publicités qu'on entend dans le spectacle sont des publicités d'époque. C'est-à-dire que je suis allé les rechercher, et par exemple, cette publicité incroyable sur la Pointe Bic, je n'ai pas changé un mot à ça.
Cette séquence vous était offerte par la Pointe Bic. La bille glisse et hop, voilà le courrier expédié. La vraie Pointe Bic
a assuré. Comment l'approchions de vous, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche ce mignon-là.
C'est d'une actualité absolument incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on dit que même il avait pressenti 68, etc. Mais je crois que c'est tellement vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il est encore en avance sur ce qui se passe. Et autant dans les chansons, et puis tous ces textes, et puis une espèce de modernité absolument incroyable. Et c'est pas un hasard si je crois aujourd'hui encore, les jeunes s'y retrouvent complètement, aussi bien dans l'écriture, c'est-à-dire dans L'écume des jours, qui est que moi j'ai relu évidemment pour ce spectacle, et qui est un roman absolument magnifique. Enfin, je veux dire, j'avais oublié à quel point c'était. Il y a à la fois du Queneau, du Kafka, enfin, il y a un mélange de choses formidables, et puis ces chansons totalement pertinentes, drôles, caustiques, corrosives comme ça, qui nous changent un peu de l'ambiance un petit peu consensuelle qu'on connaît aujourd'hui. Quoi.
Ils travaillent.
C'est pas tellement bien de travailler.
On leur a dit que c'est bien. En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. On fait ça par habitude et pour ne pas y penser, justement.
En tout cas, c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, particulièrement chez Boris Vian et que vous avez retrouvé là ?
Oh, ce côté un petit peu satirique, déplacé, un petit peu à contre-courant, du bien-pensant, et ça, c'est, ça fait du bien à l'heure actuelle.
C'est parce qu'on leur a dit le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout.
C'était assez charmant de redécouvrir l'esprit de Boris Vian, justement, antimilitariste et anarchiste.
Et s'il avait vécu en 2009, Boris Vian, qu'est-ce que lui aurait pensé de l'idée de travailler plus pour gagner plus ?
Je pense qu'il n'aurait pas été d'accord. Je pense qu'il aurait pensé comme moi que ça ne sert à rien d'essayer de travailler plus pour gagner plus, voilà.
Pour une vieille dame comme moi, c'était revoir un moment de sa jeunesse quand il était vraiment un personnage emblématique de ce à quoi on aspirait. Maintenant, certaines choses sont relativement acquises. En son temps, non seulement son œuvre est révolutionnaire, mais l'homme l'était parce qu'il est inclassable et que le spectacle restitue son originalité complète.
On n'est pas là pour se faire engueuler, juste le temps de vivre, un spectacle à voir aux têtes de Ménilmontant jusqu'au 15 mars. À suivre.